L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa. Bienvenue dans cette édition de L'un dans l'autre, le magazine d'information locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Depuis le 1er janvier, l'obligation du tri à la source des biodéchets émanant de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est entrée formellement en vigueur. Les collectivités territoriales qui ont pour compétence la gestion des déchets doivent proposer à leurs habitants une solution pour trier les restes alimentaires chez eux et les valoriser par la suite sous forme de compost ou de biogaz. Près de 30 000 tonnes de déchets sont produits par an sur Grand Bourg Agglomération. Que devient le contenu de vos poubelles? Quelles solutions sont proposées pour le tri? Nous avons posé toutes ces questions à Jean-Luc Roux, conseiller délégué à Grand Bourg Agglomération à la politique des déchets, et Sylvain Emery, directeur de la gestion des déchets à Grand Bourg Agglomération.
Pour le côté pratique, Vincent Desbois, maître composteur, a répondu à toutes nos interrogations sur le compostage.
On les écoute en deuxième partie d'émission.
Mais tout de suite, les brèves. L'un dans l'autre, les brèves.
Culture nomade à Ambérieu-en-Bugey.
Du 8 avril au 13 mai, de nombreux artistes vous accueillent pour réaliser des œuvres collaboratives dans le cadre du projet Culture nomade. Anna Fernandez, graphiste, propose une fresque participative à créer depuis votre smartphone en répondant à cette question « À quoi jouez-vous ?». Claire Georgina Dodin, artiste qui souhaite incarner la mémoire dans la matière, réalise un projet autour du thème « Éloge des creux, traces du vivant et paysages déplacés ». Des ateliers sont prévus.
Toutes les informations sur culture.nomade@orsac-cpa01.fr.
Les bonnes ondes.
GBA et rénovation énergétique.
Avec mon Cap Énergie, Grand Bourg Agglomération propose trois dispositifs d'aide à la rénovation des logements sur le territoire. Un fonds pour l'isolation, un fonds énergie renouvelable et une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour une rénovation globale ou ciblée sur la performance énergétique ou l'accessibilité du logement. Plus de détails lors de la réunion d'information organisée par Grand Bourg Agglomération le jeudi 11 avril à 19h à la salle des fêtes de Jasseron.
Égalité femmes-hommes. En Auvergne-Rhône-Alpes, les chiffres clés dans le département.
Début mars est paru sur le site de l'INSEE le dossier du panorama chiffré sur la situation différenciée des femmes et des hommes dans l'Ain. Retenez notamment que 26% des familles monoparentales, dont l'adulte référent est une femme, vivent sous le seuil de pauvreté. Comparativement, 10,8% de la population globale de l'Ain vit sous le même seuil de pauvreté. Les femmes sont plus diplômées mais moins rémunérées. À temps de travail et à diplôme équivalent, le salaire annuel d'une femme est inférieur de 5 000 euros à celui d'un homme. Enfin, le monde du travail reste très genré, avec une majorité de femmes agents d'entretien, aides-soignantes ou enseignantes, et une majorité d'hommes conducteurs de véhicules, ouvriers qualifiés du bâtiment ou agents de maîtrise. Retrouvez tous les chiffres sur le site de l'INSEE.
En lien direct avec notre dossier du jour, visite du site de la Tienne.
Organum propose des visites de son usine de recyclage et de méthanisation pour les particuliers dès 8 ans et à partir de 10 personnes. Elles ont lieu lors de temps forts annuels tels que la Semaine européenne de réduction des déchets, la Semaine du développement durable ou la Fête de la science. Pour une visite accompagnée, le jeudi 23 mai à 17h, renseignez-vous auprès du réseau France Nature Environnement de l'Ain.
L'un dans l'autre, l'interview.
On l'évoquait en début d'émission, nos usages changent en matière de réduction des déchets. Mode de collecte des ordures ménagères, tri sélectif, poubelle jaune ou poubelle noire, composteur collectif ou plutôt individuel. On vous explique tout avec nos deux invités. J'accueille Jean-Luc Roux, vous êtes conseiller délégué de Grand Bourg Agglomération à la politique des déchets, et Sylvain Emery, directeur de la gestion des déchets à Grand Bourg Agglomération. Depuis ce mois de mars, Grand Bourg Agglomération modifie la collecte des déchets dans 70 communes, hors Bourg-en-Bresse, Viria, Perona et Saint-Nié-les-Bourgs. Elle concerne un peu plus de la moitié des habitants de ce territoire. Pourquoi ce changement dans la collecte des déchets ?
Alors, il y a plusieurs raisons à cette modification de la collecte. La première, c'est qu'il fallait harmoniser un petit peu les modes de collecte très différents qui existaient sur le territoire depuis la fusion des différentes collectivités. Donc la création de Grand Bourg Agglomération remonte à 2017 les modes de collecte étaient différents à Bourg-en-Bresse, à Césaria, à Montrevel. Donc il y avait déjà un effort d'harmonisation de ces modes de collecte sur l'ensemble du territoire. La raison principale, c'était également d'apporter un service de meilleure qualité aux habitants, et en particulier de leur permettre de trier à domicile les emballages, les papiers et les emballages, qui constituent aujourd'hui une très grosse partie des déchets. Jusque-là, il fallait que les habitants transportent ces emballages jusqu'à des points de collecte, ce qui n'était pas toujours très simple pour des personnes n'ayant pas de véhicule ou ayant des difficultés à se déplacer. Et là, avec cette modification, le passage en porte-à-porte pour tous les déchets, ça permet aux habitants donc d'avoir à domicile des bacs de collecte, des bacs de tri, et donc de pouvoir mieux trier leurs déchets, leurs emballages en particulier, emballages et papiers.
Alors, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à favoriser le tri, à réduire le volume des déchets. Pourquoi cela reste encore parfois difficile à mettre en place ?
Justement, il y avait cet obstacle qui était le fait de devoir transporter sur des points de collecte qui étaient présents sur l'ensemble des communes, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a aussi les changements de comportement, il y a aussi la communication, tous ces aspects-là, nous travaillons dessus. Nous avons d'ailleurs lancé une grosse opération de communication. À l'occasion de cette modification des collectes des déchets, les habitants des 70 communes que vous avez évoquées tout à l'heure ont reçu un courrier, des explications, un bac également, un ou deux bacs même, pour leur expliquer comment mieux trier leurs déchets. Donc là-dessus, on compte évidemment beaucoup sur cet effort de communication de l'agglomération. Les freins sont multiples, c'est effectivement la méconnaissance du geste de tri. On considère qu'effectivement, il y a une amélioration à apporter. Aujourd'hui, presque la moitié des ordures ménagères sont constituées de déchets qui ne devraient pas être dans la poubelle noire.
Ce qui est certain, c'est que les déchets, le sujet des déchets, pour les gens, ne doit pas être un sujet, justement. Tout doit être facile si on veut, entre guillemets, s'assurer qu'ils respectent bien, donc du coup, qu'ils trient bien et qu'ils jettent correctement. Et pour ça, effectivement, les dispositions qui consistent à faciliter au quotidien le tri, et donc du coup, avoir devant sa porte un bac jaune plutôt que de faire effectivement 1,5 km, c'est peu souhaitable. Après, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a les choses que l'on maîtrise, puis celles que l'on ne maîtrise pas forcément. Aujourd'hui, on est aussi dans un mode de consommation au niveau, j'allais dire national, mais en réalité mondial, où la place de l'emballage est très importante et où la production de déchets est forte. Donc du coup, nous, on peut intervenir sur les pratiques des usagers. On ne peut pas intervenir sur les modes de production des industriels ou des gros producteurs que peuvent être les centres commerciaux, globalement les industriels.
Et d'un point de vue des usagers, du coup, vous sentez quand même une prise de conscience ? Est-ce qu'ils ont encore des négligences ?
Oui, c'est vrai que on sait qu'aujourd'hui, c'est un des premiers gestes d'éco-responsabilité, d'éco-citoyenneté que de trier ces déchets. Donc c'est un geste qui est aujourd'hui bien ancré. Le tri du verre, par exemple, on n'en a pas parlé, mais le verre, lui, va continuer d'être apporté sur des points d'apport volontaire. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà très ancré, très ancien. Donc ce qui est un petit peu plus nouveau aujourd'hui, c'est le tri des emballages. L'agglomération est passée à la collecte de tous les emballages en 2022, donc c'est relativement récent. Auparavant, il fallait distinguer différents types d'emballages, il y avait ceux qu'on pouvait trier, ceux qu'on ne pouvait pas. Depuis 2022, c'est tous les emballages et tous les papiers se trient et doivent aller donc dans la poubelle jaune et non pas dans la poubelle grise. Donc ça, c'est un geste qui est de plus en plus ancré, mais on sait qu'il y a encore des publics qui sont un peu éloignés de cette communication-là. Donc c'est vers ces personnes en particulier qu'on va communiquer à Bourg-en-Bresse ou dans les différentes communes rurales qui nous entourent.
Il y a un autre facteur aussi qui est important, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est plus on approche la collecte du lieu de domicile, plus le tri se fait mieux et le volume d'ordures ménagères diminue. C'est un phénomène que vous avez constaté sur l'agglo ?
Alors, Pardon, vas-y Sylvain.
Oui, enfin, ce qu'on constate, c'est très clairement, en fait, Jean-Luc le disait tout à l'heure, on avait différents modes de collecte qui se faisaient sur la nouvelle agglomération qui résultait de l'histoire, des anciennes agglomérations. Donc on observait très clairement que le tri qui se faisait dans certaines communautés de communes qui disposaient de la collecte en bac et donc du coup de la collecte en porte-à-porte, entre guillemets, était meilleur. Le taux de tri était meilleur que lorsqu'il était dans les endroits où la collecte se faisait en point d'apport volontaire, donc potentiellement à 1 km ou 2 km de son domicile.
Ce sont aussi des résultats qui ont été montrés à l'échelle nationale. L'agence qui s'appelle l'ADEME, que les habitants connaissent bien aujourd'hui, qui s'occupe de tous les aspects de transition écologique, énergétique, etc., a fait des études là-dessus pour montrer qu'effectivement, la collecte en porte-à-porte obtient des meilleurs résultats. Cela dit, tous les territoires ne passent pas forcément porte-à-porte. Il y a différents modèles possibles. C'est le choix politique de Grand Bourg Agglomération depuis l'année dernière. On a beaucoup travaillé sur ce sujet. On a travaillé aussi avec les élus locaux, les maires, parce qu'on ne peut pas transformer des modes de collecte comme ça sans préparer le terrain, sans préparer les habitants, les élus des différentes communes. Et globalement, on a trouvé un relatif consensus sur l'idée que ça améliorerait le service pour les habitants et pour Grand Bourg.
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du volume de déchets produits en moyenne chaque année sur Grand Bourg Agglomération ?
Alors, on est, si mes souvenirs sont bons, autour de 550 kg par habitant. On est légèrement en dessous de la moyenne nationale. Ça représente effectivement des milliers de tonnes. Et beaucoup de ces déchets, d'ailleurs, sont des déchets qui sont collectés en déchetterie. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel le service de gestion des déchets travaille activement à réduire aussi cette masse de déchets qui arrive en déchetterie. Pour ce qui est des ordures ménagères, Sylvain, on est à 180 kilos, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, sur le volume global, Organum, qui est donc le syndicat de traitement des déchets de toute une partie de l'Ain, de 9 communautés de communes, dont Grand Bourg Agglomération, ça représente 60 000 tonnes par an, et l'agglomération, c'est peu ou prou la moitié. Voilà, on est peu ou prou à 30 000 tonnes par an d'ordures ménagères, seulement d'ordures ménagères.
Voilà. Collectées.
Collectés.
Ouais. Alors, une fois collectés, que deviennent les déchets ? Où ils sont traités, recyclés ?
Alors, effectivement, c'est un syndicat qui s'appelle Organum, un syndicat de traitement et de valorisation des déchets qui existe maintenant depuis 20 ans sur le territoire. Le site même de valorisation existe depuis 40 ans. Il est situé à Viria, donc entre Viria et Bourg-en-Bresse, sur le site de la Tienne. On va fêter cette année d'ailleurs le 40e anniversaire du site de la Tienne, qui a ouvert en 1984, avec donc des casiers d'enfouissement. Aujourd'hui, ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est que les déchets, les ordures ménagères sont enfouis sur le territoire. Cet enfouissement se fait après une phase de tri. Donc on a créé maintenant depuis presque 10 ans une usine sur le site de la Tienne, à Organum, qui trie les ordures ménagères et qui permet de valoriser la part fermentescible des déchets. Qu'est-ce que c'est la part fermentescible ? C'est les biodéchets, c'est les déchets qui se dégradent, les restes de repas, les épluchures de légumes, ces choses-là, les peaux de banane. Tout ça, ça se dégrade, ça peut fabriquer de l'énergie, ça fabrique du méthane. Donc on a un méthaniseur sur le site et ensuite tout ça se termine en compost. Donc ça représente à peu près la moitié de la poubelle des ordures ménagères qui est valorisée énergétiquement et sous forme de compost. Il reste l'autre moitié qui, elle, finit effectivement dans des casiers d'enfouissement. J'invite vos auditeurs à venir visiter le site. C'est un site public, il peut être visité sur rendez-vous, évidemment. Il y a régulièrement des habitants, des citoyens qui veulent visiter le site pour se rendre davantage compte de ce que deviennent effectivement les ordures ménagères.
Et concernant le compostage, Grand Bourg Agglomération peut fournir à ceux qui en font la demande des bacs individuels. Où s'adresser ? Combien ça coûte ?
Alors, les bacs individuels ou les bacs collectifs, c'est aussi une possibilité, notamment en zone urbaine, sont disponibles donc au site de la Cambuse, au centre technique de la Cambuse, qui se situe sur la route de Saint-Étienne-du-Bois, en sortie de Bourg, après Cap-Émeraude, donc sur la direction de la gestion des déchets qui se situe là-bas. Ça coûte 25 euros. En réalité, c'est une mise à disposition. parce que le coût d'achat réel, il représente à peu près entre 70 et 90 euros. Et donc, il y a une aide de l'agglomération pour que le composteur soit confié donc, du coup, aux habitants du territoire à une somme qui reste tout à fait acceptable.
Aujourd'hui, vous savez combien de bacs ont été vendus ?
Sur cette année ?
Ouais. Ou au total ?
Je crois que l'année dernière, on était à 700 en 2023. La perspective cette année, naturellement, c'est d'augmenter progressivement le nombre de bacs individuels, enfin donc de composteurs individuels qui sont donnés à la population, enfin confiés à la population. Après, je le disais, il y a aussi les composteurs collectifs qui, eux, font l'objet d'un accompagnement un peu plus important parce que ça nécessite de rassembler un certain nombre d'habitants autour du composteur et qu'ils mettent en place une organisation du quotidien pour le retourner, le renouveler, l'utiliser potentiellement aussi. Donc caler une organisation avec les habitants.
Les composteurs collectifs, ce serait une solution, par exemple, pour les habitants des immeubles ?
Tout à fait. Il y en a un qui a été installé tout récemment à la Ressouze, qui rapidement a fait des émules, puisqu'en réalité, il y en avait un, puis deux, puis trois, puis quatre sur le même site. Aujourd'hui, je crois que c'est 80 usagers approximativement qui sont utilisateurs de ces composteurs collectifs et qui, du coup, l'entretiennent, abondent donc, du coup, au quotidien, mais du coup, l'entretiennent aussi
Alors,
au quotidien.
Comment on s'organise ? Il faut une équipe, il faut des bénévoles. Comment on s'organise pour les composteurs collectifs ?
Bah, ça suppose qu'il y ait quelques référents. Potentiellement, une semaine, c'est un tel. La semaine suivante, c'est Madame Michu. Et ça permet, donc, du coup, chaque semaine, de faire en sorte que le compost soit régulièrement retourné pour qu'il soit suffisamment aéré, pas trop sec, pas trop humide. Au bout d'un moment, au bout de quelques mois, il est suffisamment fait pour être utilisé dans les espaces verts à proximité, dans les bacs à fleurs de chacun des individus, hein, dans leur appartement ou la petite pousse de basilic éventuellement.
Alors, la question concrètement, je jette quoi dans mon compost à Grand-Bourg Agglomération ?
Alors, c'est essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, les épluchures de légumes, les restes de repas. Il faut éviter les morceaux carnés parce qu'effectivement, ça peut poser des problèmes et attirer par exemple des rongeurs. Donc, c'est plutôt effectivement tout ce qui est légumes, épluchures de légumes, de fruits, le pain en toute petite quantité. Voilà, ça représente. Et puis, donc, le gaspillage alimentaire, hein, ce que les gens jettent parce qu'ils n'ont pas consommé ou des choses comme ça. Je voudrais préciser sur effectivement le composteur collectif de la Ressouze que c'est un projet qui est à l'initiative d'un conseil citoyen de la ville de Bourg-en-Bresse. Donc les conseils citoyens sont constitués voilà, de citoyens volontaires pour participer à la vie de leur quartier. C'est un très beau projet, c'est le premier sur la ville. On espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Il y a d'autres conseils citoyens, il y a des collectifs d'habitants aussi qui peuvent se réunir. Ça peut être au sein d'une collectivité, genre une copropriété par exemple. Vous voyez, on en a plusieurs. Hein. Il y a aujourd'hui des copropriétés à Bourg-en-Bresse et dans les villes autour qui ont des collectifs d'habitants, de copropriétaires qui sont prêts à passer un tout petit peu de temps. Ça ne représente pas énormément de temps pour s'occuper du composteur collectif. On en trouve aussi dans des écoles, dans des collèges. Donc voilà, c'est des choses qui vont se développer. Il y a une loi qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier de cette année qui oblige les collectivités à mettre effectivement à disposition des outils pour mieux composter, pour trier à la source les biodéchets. Donc c'est dans ce cadre que Grand-Bourg Agglomération fournit en effet ces composteurs individuels ou collectifs. Les collectifs sont gratuits, les composteurs individuels sont à un prix modique de 25 euros.
Est-ce que vous pourriez nous redire le devenir des déchets organiques ?
Alors, les déchets organiques, ils arrivent effectivement... Il y a deux types. C'est-à-dire, ceux qui sont compostés individuellement par les habitants, ils restent chez eux. Ils servent à alimenter le sol de leur jardin, de leur potager, par exemple. C'est pour ça qu'on encourage le compostage individuel, parce que c'est quand même la solution la plus simple. Le déchet n'est pas transporté, il reste sur place et il permet aux habitants qui ont la chance d'avoir un petit peu de jardin, un petit peu un petit potager ou des fleurs, de pouvoir nourrir le sol de leur jardinet et de leurs fleurs. Si c'est les biodéchets qui sont dans les ordures ménagères, comme je le disais tout à l'heure, c'est valorisé sur le site de la Tienne avec l'usine qui s'appelle l'usine OVAD et qui valorise donc énergétiquement et sous forme de compost la moitié des OM.
Et enfin, dernière question pour vous deux, ce serait quoi pour vous le geste simple à faire pour réduire encore plus ces déchets ?
Alors, c'est un travail de longue haleine. On y réfléchit beaucoup. On a au service de gestion des déchets des agents qui travaillent, des chargés de mission qui travaillent sur la question de la réduction des déchets. On a d'ailleurs, en 2022, validé un plan local de prévention des déchets donc, qui permet de mettre en œuvre des actions pour réduire le volume général. Moi, je crois, par exemple, à la question du vrac. Acheter ces aliments en vrac avec des récipients qu'on peut réutiliser, des pots, des bouteilles en verre, tout ça, ça peut être réutilisé. Ça permet effectivement, dans quelques magasins, mais je crois que ça se développe de plus en plus, y compris dans les grands supermarchés, on trouve aujourd'hui des rayons en vrac et ça réduit quand même considérablement les emballages.
Je pense qu'il y a... Moi, je vais donner un geste. Ça concerne le textile. Aujourd'hui, tout le monde a encore en tête, à l'esprit, que lorsque on donne son vêtement dans une borne de collecte qui est organisée essentiellement par Tremplin, l'association Tremplin sur le territoire de Grand-Bourg agglomération, ça va aller donc dans des magasins de seconde main. C'est effectivement le cas. Mais il y a toute une partie qui est en train de se développer, notamment via un projet qui se mène en partenariat très fort avec Tremplin, de réemployer et recycler la totalité des textiles qui sont collectés sur le territoire dans un périmètre qui soit très restreint, qui reste en local. Donc à 300, en gros, le projet s'appelle Textile 360, avec l'idée que tous les textiles, plutôt qu'ils partent à l'export, notamment dans les pays africains ou dans les pays asiatiques, pour du recyclage ou du réemploi, tout ceci se fasse dans un périmètre très restreint. Et on le disait tout à l'heure, hein, OVAD est donc l'usine qui accueille toutes les ordures ménagères de l'agglomération. Parmi ces déchets qui sont entre guillemets accueillis, Organum, enfin, l'usine OVAD, collecte 1000 tonnes de textiles par an. Donc du coup sur le territoire d'Organum, c'est deux fois plus, enfin c'est au moins autant en tout cas que les textiles qui sont collectés via les bornes qui sont donc sur l'ensemble du territoire. Ça signifie que énormément de gens ne savent pas que les textiles, il vaut mieux les mettre dans les bornes, y compris s'ils sont en mauvais état, parce qu'ils peuvent être recyclés derrière. Il vaut mieux les mettre là-dedans que dans la poubelle des ordures ménagères.
Ok, donc s'approprier le vrac ou recycler le textile localement. Très bien, merci Jean-Luc Roux et Sylvain Emery.
Radio B, les bonnes ondes.
Et quelle conduite à tenir pour faire son propre compost ? Vincent Desbois, maître composteur, nous dévoile la recette d'un bon compost et nous parle du cycle de la matière organique.
Je considère que plus tu es proche des déchets, moins t'en produis. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur le compostage. Les premières étant, ça va attirer les rats, ça va attirer ce que j'appelle moi les bestioles. Et donc, du coup, il y a cette appréhension de beaucoup de personnes. On a longtemps distribué des composteurs sans aucune formation. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand on se met à faire du compostage, eh bien, on a un nouvel animal de compagnie qui est toute la faune qui intervient, toute la faune des décomposeurs qui interviennent dans le processus de compostage. Et donc, du coup, comme vous vous occupez de votre chat et de votre chien, eh bien, il va falloir vous occuper aussi de ces nouvelles petites bestioles qui vont vous transformer vos restes de repas et puis vos déchets de votre jardin en ce qu'on appelle l'or noir du jardinier, souvent. Eh bien, il faut pouvoir s'en occuper. Et du coup, il faut leur fournir les meilleures conditions de vie. Vous n'oubliez pas de donner à manger et à boire à votre chat, et bien c'est la même chose pour les petites bêtes du compost, que ce soit les vers de terre, les cloportes, les bactéries, les champignons, qui sont tous des détrivores. Alors je dis détrivores, décomposeurs, tout ça c'est des synonymes. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens, qu'en fait, le composteur au fond du jardin, c'est pas juste un transfert d'une poubelle à une autre. Le composteur n'est pas une poubelle, le composteur est un nouveau lieu d'élevage dans votre jardin. C'est vraiment là où il y a le plus de vie dans votre jardin, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire avec le compostage, c'est de reproduire ce qui se passe dans la forêt. On va essayer de reproduire la même chose dans un composteur. C'est beaucoup plus concentré que dans la forêt. Les plus audacieux d'entre nous font ce qu'on appelle du compostage de surface, c'est-à-dire qu'on étale nos épluchures de fruits et légumes directement sur le sol, qu'on va recouvrir quand même pour qu'il y ait des questions d'esthétique avec un peu de broyat de branches ou de foin glané à droite à gauche. Mais on va essayer de reproduire en fait ce qui se passe dans la forêt, dans le composteur. Et donc, il faut un petit peu de maîtrise, et je pense que c'est ça qui aujourd'hui, c'est cette non-maîtrise, parce qu'il y a non-transmission des consignes qui vont bien, qui fait que les gens sont un peu réticents à faire du compostage, ou sont encore assez éloignés du compostage. Le stade ultime du compostage, c'est ce qu'on appelle l'humus, et en fait, le sol a un réservoir d'humus qui est fini. Donc chaque fois que la plante va puiser pour grandir, pour faire des fruits, tout ça, va puiser dans ce stock d'humus, eh bien elle appauvrit ce stock d'humus, et donc il va falloir que nous on le renouvelle régulièrement, et c'est à ça que sert le compostage.
Alors deux questions. Alors, une fois que j'ai mis ma petite boîte au fond de mon jardin, par quoi je commence? Et est-ce que je peux utiliser mon compost avant qu'il soit vraiment au stade d'humus?
Alors, par quoi je commence? Je dirais déjà, quand est-ce que je commence? L'idéal, c'est de commencer au printemps, parce que c'est le moment où on a envie de ressortir. La nature se réveille, on va aller plus facilement au composteur, et ça, c'est vraiment important. L'emplacement du composteur est vraiment important. Si vous le mettez très très loin au fond du jardin, l'hiver, vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Ce qui est important aussi, c'est de se transformer en boulanger, c'est-à-dire de venir importer un petit peu un compost qui est déjà en cours de travail, avec toutes les petites bêtes qui sont déjà présentes. Vous allez chercher une petite pelletée de compost, et ça va vous faire votre levain pour votre futur composteur. Donc c'est pour ça que je dis se transformer un peu en boulanger. Et puis, il y a la recette du compost, parce qu'il y a une vraie recette du composteur. Comme je disais tout à l'heure sur l'élevage des petits animaux, il nous faut nourrir correctement ces petits animaux. Et donc, pour nourrir correctement ces petits animaux, il nous faut ce qu'on appelle deux types de matières. Des matières plutôt azotées, qu'on va appeler des matières vertes, humides, molles. Donc, grosso modo, nos épluchures de la maison, nos épluchures de fruits et légumes, nos restes de repas, voilà, tout ce qui vient de la maison. Et puis, il nous faut de la matière carbonée, qu'on appelle brune, dure et sèche, donc par opposition à tout à l'heure. Et donc ça va être des branchages qu'on aura collectés. Et donc du coup, pour bien commencer un composteur, il faut avoir un petit peu de ces stocks de matières brunes, parce que c'est des matières qu'on va plutôt collecter en hiver. Donc ça, c'est les deux éléments pour bien nourrir mes petites bêtes. Et puis, tout comme nous, elles respirent, donc il leur faut de l'air. Elles ont soif, donc il leur faut de l'eau. Ce qui m'amène à vous délivrer le secret de la bonne recette du composteur. Il vous faut du brun, du vert, de l'eau et de l'air. Vous avez là les quatre ingrédients essentiels. Et si vous n'avez pas ces quatre ingrédients-là, vous ne pouvez pas faire un bon compost. Pour faire un bon compost, il nous faut à la fois de l'azote et à la fois du carbone. Donc à la fois de la matière molle, humide, et à la fois de la matière brune, dure et sèche.
Et dans l'utilisation du compost, alors à quel moment je reconnais que je peux l'utiliser dans mon potager ou ailleurs?
Alors, on parle d'un compost mûr, donc qui n'est pas encore tout à fait un humus, mais qui s'en approche, qui commence à s'en approcher. Grosso modo, moi je vous conseille d'être sur un cycle d'un an. L'utilisation du compost, ça va être au printemps. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser correctement le compost. Mais sinon, les caractéristiques d'un compost mûr, c'est un compost noir, très noir. Je ne reconnais plus de des déchets que j'ai pu mettre. Il y a presque plus de petites bêtes dedans, puisqu'il n'y a plus rien à manger. Donc du coup, elles auront tendance à avoir fui le compost pour aller chercher à manger ailleurs. Les caractéristiques d'un compost mûr, en fait, voilà, c'est ça. Mais surtout, voilà, si vous êtes sur un cycle d'un an, vous avez fait quelque chose de... Vous êtes sûr, quasiment, d'avoir un compost mûr prêt à l'utilisation.
Je ne mets que mes déchets végétaux, ou je peux aussi mettre autre chose dans ce compost?
Le compostage est un processus de dégradation de la matière organique. Donc, toute matière organique va au composteur. Il y a beaucoup de légendes urbaines ou rurales, je ne sais pas comment il faut les appeler, sur le compostage. Il ne faut pas que je mette de la viande, il ne faut pas que je mette des croûtes de fromage, il ne faut pas que je mette les agrumes, il ne faut pas que je mette l'ail, il ne faut pas que je mette les oignons. Tout se composte. Toutes les matières se compostent. Un conseil que je pourrais donner, c'est de commencer effectivement par les matières faciles à composter, les matières végétales. Et puis d'introduire au fur et à mesure toutes les autres matières. Tout y va dans le composteur. Il n'y a pas d'exclusion a priori. Je fais partie d'une association qui s'appelle le Réseau Compost Citoyen. Et où, avec cette association-là, il a été fait des essais de compost avec uniquement des agrumes. Ça fonctionne très très bien. Pas de problème. Il suffit de respecter la recette. L'ail, l'oignon qui serait vermifuge, c'est vermifuge effectivement, mais c'est pas pour les vers de terre. Donc c'est pas les mêmes vers. Donc pas de problème, vous pouvez y aller.
Alors Vincent Dubois, vous êtes maître composteur, expliquez-nous.
Maître composteur, c'est un titre qui est issu d'un relevé de compétences qu'a édité l'ADEME il y a quelques années. Qui institue quatre catégories de spécialistes du compostage. Donc il y a ce qu'on appelle dans le déchet organique, et bien du coup il y a le maître composteur. Il fait lui-même du compost de toute façon.
Alors au niveau du compostage, entre individuel et collectif, quelles pourraient être les limites ou les avantages de chacun de ces deux usages?
J'aurais pas d'opposition entre compostage individuel et compostage collectif à proprement parler. Individuel, c'est pour les gens qui ont de la place, qui ont un jardin. Et puis, le collectif, c'est je n'ai pas la possibilité soit d'avoir un jardin, un lieu pour faire mon compost chez moi. Je n'ai pas l'utilité du compost, mais par contre, j'ai l'envie de traiter mes déchets. Et donc, du coup, je vais faire quelque chose de collectif. Donc, soit au niveau d'un pied d'immeuble, soit au niveau d'un quartier.
Vincent Desbois, est-ce que vous avez un ouvrage ou une référence à nous recommander pour aller plus loin sur le sujet?
Du coup, si vous voulez faire du lombricompostage, j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle « Le lombricompost » aux éditions Rustica. Et sinon, eh bien, vous avez les ouvrages de Michel Mustin, le guide close du jardinage, par exemple, qui voilà, tous ceux qui font du potager vont le connaître. Tout ce qui est les éditions Terre Vivante ont beaucoup, beaucoup de livres sur le compostage à proprement parler. Donc voilà, c'est plutôt ces livres-là que moi je conseillerais.
Merci Vincent.
Merci.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine.
Merci Elsa. On vous retrouve lundi prochain à 18h pour de nouvelles infos qui vous engagent.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.